Trouver ou ne pas trouver Jésus. Croire ou ne pas croire ce que l'on a vu. Reconnaître ou ne pas reconnaître Jésus. Ces situations sont traversées successivement par les femmes, ces femmes que nous allons essayer de suivre aujourd'hui, par Pierre, le grand apôtre, qui se demande s'il doit croire ou ne pas croire ce qu'il a vu. Et finalement, deux disciples, là aussi deux parmi les 12, mais anonymes, qui cheminent avec Jésus sur le chemin d'Emmaüs. Trouver ou ne pas trouver Jésus, croire ou ne pas croire ce que l'on a vu, reconnaître ou ne pas reconnaître Jésus. Ces prochaines semaines, nous allons nous mettre dans les pas de ces premiers témoins de la résurrection. Nous mettre dans leurs pas pour apprendre à les connaître, apprendre de leurs réactions et se laisser toucher par leur manière d'être au monde. Pour finalement nous poser cette question, connaître ou ne pas connaître Jésus? Trouver ou ne pas trouver Jésus? Croire ou ne pas croire qu'il soit ressuscité? La résurrection nous pose ces questions qui ne sont pas forcément agréables, ni forcément très confortables, mais pourtant qui nous poussent en avant, qui donnent du sens à notre vie de foi. Elle nous pose ces questions car la résurrection, elle était totalement imprévue, elle était totalement inconcevable. Alors ce matin, je nous propose, et je vous propose de vous emmener, sous forme d'histoire finalement, en immersion sur les traces de quelques femmes. Alors je vous invite, venez avec moi et avec Marie Ray qui va nous lire un texte dans l'évangile de Luc.
Le premier jour de la semaine, elles vinrent au tombeau de grand matin en apportant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent la pierre roulée de devant le tombeau. Elles entrèrent, mais elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles étaient perplexes à ce sujet, deux hommes survinrent devant elles, en habits éclatants. Toutes craintives, elles baissèrent le visage vers la terre. Mais ils leur dirent « Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Il n'est pas ici, il s'est réveillé. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée, et qu'il disait « Il faut que le Fils de l'homme soit livré aux pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il se relève le troisième jour. » Et elles se souvinrent de ces paroles. Elles s'en retournèrent du tombeau pour raconter tout cela aux 11 et à tous les autres. C'était Marie-Madeleine, Jeanne, Marie de Jacques et les autres avec elles. Et elles le dirent aux apôtres. Mais ces paroles leur parurent une niaiserie et ils ne crurent pas les femmes. Pierre cependant se leva et courut au tombeau. En se baissant, il ne vit que les bandelettes qui étaient à terre. Puis il s'en alla chez lui, s'étonnant de ce qui était arrivé.
Les femmes. À la fin de ce texte, on sait finalement leur nom, en tout cas pour trois d'entre elles. Il y a Marie-Madeleine, Jeanne, Marie, mère de Jacques. Il y en a encore quelques autres qui restent anonymes. La première chose que l'on observe en suivant leur pas, c'est qu'elles partent dès qu'elles le peuvent. Alors qu'il fait encore très sombre, qu'il n'y a certainement personne dans les rues, personne pour les voir ni pour les entendre, on les imagine se faufiler dans les rues étroites de Jérusalem. Empressement, attention. Leur exemple va donner lieu à la pratique de nos aubes de Pâques, nos aubes pascales. C'est fascinant de voir comme il y a des gestes qui deviennent millénaires, sans que les premiers ou les premières à l'avoir fait s'en soient doutés une seule seconde. L'aube de Pâques, comme nous l'avons vécu la semaine passée, accueille la lumière du jour, comme la lumière de la résurrection, symbole de la vie, de la puissance de la vie. Mais il y a, d'après moi, encore plus que cela. Car il n'y a pas que le symbole dans cette démarche qui est la nôtre de vivre une aube de Pâques. Il y a aussi, et j'ai envie de dire surtout, une dimension réelle, très réelle, des événements qui nous sont relatés dans la parole. Nous ne sommes pas ici, premièrement, dans le symbolique, et encore moins dans l'abstraction théologique, mais bien dans l'histoire. Une histoire de vie de plusieurs femmes, de chair et d'os comme vous et moi. Dans l'histoire de Marie-Madeleine, dans l'histoire de Jeanne, dans l'histoire de Marie, mère de Jacques, et dans l'histoire de plusieurs autres femmes. Et en perpétuant cette pratique, le matin de Pâques, nous nous inscrivons clairement dans leur pas à elles, dans leur histoire de vie commencée il y a plus de 2000 ans. Ce que nous vivons est réel, comme est réel ce qu'elles ont vécu alors qu'il faisait encore sombre. Le texte nous dit aussi, dans ses détails et des indications de prime abord que nous trouvons sans importance, souvent que nous lisons aussi trop vite, elle nous dit ce texte que les femmes ont préparé toute la journée du samedi des aromates pour embaumer le corps de Jésus. Ainsi, après l'empressement et après l'attention, on trouve le soin. La consécration pour ce maître, ce rabbi qui leur a été enlevé sans qu'elle n'ait rien eu à dire, rien eu à faire. Leur impuissance, les jours précédant la crucifixion à ces femmes, a été totale. Elles n'ont bénéficié d'aucun relais, aucun levier politique, aucune influence sur le cours des choses, au niveau des sphères de pouvoir. Ce pouvoir, il était confisqué par les religieux et par l'occupant romain, exclusivement des hommes. Pourtant, ce sont les premières, le matin de Pâques, à venir prendre soin du corps. Ce sont elles qui ont usé de leur temps de repos, de confinement le samedi, pour préparer les aromates. Ce sont elles finalement qui sont là, là où il est bon et nécessaire d'être. C'est un joli clin d'œil de la part de Dieu de nous dire que ce n'est pas toujours là où on pourrait croire qu'il est bon et nécessaire d'être que Dieu nous attend. Leur geste anonyme va traverser les siècles et il est encore pratiqué aujourd'hui. Par elle, la résurrection du Seigneur Jésus s'inscrit dans l'histoire avec un grand H et dans notre histoire personnelle, notre histoire de foi. Et c'est une question, une première question que je nous laisse, une première question à approfondir ce matin. Comment la résurrection s'inscrit-elle dans notre vie de tous les jours? Comment est-ce qu'elle nous influence? Comment elle vient influencer ma manière d'être au monde? Et on va voir que la suite du texte va peut-être un peu nous décomplexer par rapport à la grandeur un peu peut-être effrayante de cette question. Elle va nous montrer que ce n'est pas si facile que ça à apprivoiser comme événement, la résurrection du Christ. Et un théologien le dit bien, il s'appelle, il a un peu un nom à coucher dehors, Wolfhard Pannenberg, qui nous dit « Les preuves de la résurrection de Jésus sont tellement fortes que personne ne songerait à les remettre en cause, à deux exceptions près. » Premièrement, c'est un événement très inhabituel. Et deuxièmement, si l'on croit qu'il a eu lieu, cela implique de changer sa manière de vivre. Un événement inhabituel, je ne saurais dire le contraire. Et retrouvons nos femmes le matin de Pâques. Elles sont empressées, attentionnées. On les a imaginées arriver à petits pas en se précipitant dans les rues de Jérusalem. Et enfin, elles arrivent au lieu où le corps de leur Seigneur bien-aimé a été déposé. Et là, que nous dit le texte? Elle nous dit, et elles trouvèrent. Peuvent-elles dès lors crier victoire? Lorsqu'on prépare avec soin quelque chose, comme les femmes l'ont fait, lorsque l'on se met en mouvement, signifiant par là l'attachement, et que l'on finit par trouver, on ne peut être que satisfait. Elles ne peuvent être que satisfaites. On pense évidemment au fameux Eureka d'Archimède dans sa baignoire qui déborde de tout partout. Eureka vient du grec eurisko qui signifie trouver. Et c'est ce que nous dit le texte là, elles trouvèrent. Simplement ici, et d'une certaine manière comme Archimède, la trouvaille rime avec surprise. Elle rime avec étonnement. Elle trouve bien quelque chose, mais pas ce à quoi elles s'attendaient. Elles étaient parties pour trouver un corps mort à couvrir d'aromates. Elles se retrouvent face à une situation impensable, inimaginable. Une pierre, non, la pierre du tombeau a été roulée. Est-ce la brume matinale? Est-ce qu'elles sont mal réveillées? Est-ce que les aromates auraient des effets imprévus sur leur conscience? On ne le sait. Trouver ou ne pas trouver Jésus, trouver ou ne pas trouver ce que nous étions venus chercher. Une fois de plus, le maître les surprend. Une fois de plus, l'étonnement est grand. Et certainement plus que jamais pour ces femmes, pourtant habituées aux événements peu communs depuis quelques années. Guérison, une tempête apaisée, des moments de délivrance, des enseignements décapants, des annonces prophétiques. Mais là, force est de constater que c'est encore un niveau supérieur. Là où on s'attend à trouver Jésus, il se peut qu'il se dérobe, qu'il nous pousse encore à le chercher plus loin, ailleurs. Là où on se donne parfois du mal à préparer, à prendre soin, nous ne pouvons exclure qu'avec Jésus ce soit vain et inutile car déjà il est ailleurs. Comme pour nos femmes qui se retrouvent avec des tas d'aromates sur les bras, qui sont devenus inutiles de trop. À leur suite, nous ne pouvons exclure de nous retrouver parfois avec des tas de choses inutiles sur les bras. Des gestes, des actions de consécration qui d'une certaine manière, mais seulement d'une certaine manière, sont vains. Car là où nous pensions trouver Jésus, il n'y est tout simplement plus. La surprise se confirme. Elles entrent dans le tombeau, elles se précipitent dans le tombeau, elles cherchent à comprendre. Et là, deuxième fois que l'on trouve le verbe trouver, simplement dans la négative. Elles ne trouvent pas le corps du Seigneur Jésus. Les femmes trouvent ce qu'elles ne sont pas venues chercher, une pierre roulée ou la pierre roulée, et elles ne trouvent pas ce qu'elles sont venues chercher, le corps du Seigneur Jésus. Décidément, la résurrection brouille les pistes, chamboule les certitudes, déplace nos représentations, nos idées, nos conceptions du monde. Et ce n'est pas en raison des aromates, c'est la réalité de la résurrection. Trouver ou ne pas trouver ce que nous étions venus chercher. Dans nos quêtes spirituelles, nous est-il déjà arrivé de ne pas trouver ce que l'on était venu chercher? A-t-on déjà expérimenté ces déplacements, qui sont souvent d'ailleurs forcés et contraints? Actuellement, on vit une crise, la crise du coronavirus. Nous vivons en direct, un peu comme ce matin, un temps de déplacement, de bouleversement de nos représentations. Le caractère imprévisible et surprenant est l'une des caractéristiques principales d'une vraie crise et pas d'une petite crisette. Là, on vit aujourd'hui une vraie crise. Cette pandémie nous a pris par surprise. Elle nous a pris au dépourvu. On est gentiment en train de se remettre du choc initial, de ces annonces du Conseil fédéral qui finalement gèle toute une partie, voire toute la société. On est en train gentiment de se remettre et de comprendre peut-être ce qui nous arrive. On ne comprend pas encore ce qui va nous arriver, tant les conséquences paraissent difficiles à évaluer. Toute proportion gardée, et je le crois vraiment car le choc est autrement plus important, la résurrection provoque une crise chez les femmes et les disciples de Jésus. Elle provoque une crise et je crois qu'il est bon et nécessaire que la résurrection du Christ continue de provoquer une crise en nous. Croyants du 21e siècle qui marchons à la suite de Jésus et qui plaçons aussi d'une certaine manière nos pieds dans celles, nos pas dans celles de ceux des femmes. Car la résurrection est bien plus qu'un article de la confession de foi que nous avons pu apprendre et que nous avons pu intégrer. Car à la suite de ces femmes qui sont des exemples et des aspiratrices pour nous, je crois que nous devons aussi passer par cette crise des représentations, par cette crise de ce qui paraît possible ou non. La pierre a été roulée, le corps du Seigneur Jésus n'est pas là. Vertige. Et pourtant, cette crise demande à être digérée. On ne peut pas rester au stade de la stupeur. Le récit de Luc, d'ailleurs, est déjà une forme de digestion, si l'on peut dire, puisqu'il transmet, met des mots sur l'impensable, il met des mots sur l'inimaginable, et nous pouvons, à sa suite, le lire. De cette digestion de la crise va déboucher une transformation intérieure, profonde des femmes et des disciples. Dans leur sillage, tout un monde, toute une société va être transformée, petit à petit, mais de manière décisive et irrévocable. Et nous en sommes les témoins, ce matin, en ce jour 19 avril 2020, 2000 ans après, nous en sommes toujours les témoins de cette transformation. Nous devons aussi passer par cette crise de foi en la résurrection. Ce n'est pas rien. Un sondage paru dans un journal, Le Quart d'heure pour l'essentiel, montre bien la difficulté actuellement de croire encore et toujours à la résurrection. En effet, seul un quart, 25%, c'est pas beaucoup, des Suisses croient encore à la résurrection, contre un tiers en 2007, il y a un peu plus de 10 ans. Ce sondage nous dit aussi que même chez les personnes qui se considèrent comme étant chrétiennes, la résurrection pose un gros problème. Seuls 37% des chrétiens croient encore à la résurrection. On peut parler de crise, hein, je crois. Alors nous, croyants, on fait quoi? On lâche le morceau? On se dit que de toute manière, on va abandonner la cause. Et ce n'est pas qu'une question rhétorique que je nous pose. Et je crois que pour répondre pleinement, pour répondre complètement à cette question, il nous faut consentir, et même ce n'est pas très agréable, à passer par un temps de crise de nos représentations, de nos croyances, pour aller là où Jésus nous attend vraiment, c'est-à-dire hors du tombeau. Et peut-être que, comme pour les femmes, nous aurons besoin d'un coup de pouce, d'une arrivée spéciale. Pour elles, ce sont deux hommes vêtus de blanc qui sont arrivés de manière resplendissante. Et ces deux hommes, la première chose qu'ils font, ce n'est pas qu'ils leur adressent la parole, c'est qu'ils constatent l'état dans lequel sont ces femmes. Et le mot choisi en grec est assez éloquent. Ce qu'ils constatent, ces deux hommes, on peut le traduire par un état de doute, soit par un état où ils les trouvent complètement perdus, ou encore complètement éparpillés, c'est-à-dire ne sachant plus vraiment où donner de la tête, soit par un état de grande perplexité. Doute, être perdu, être éparpillé, perplexité. Quand je vous disais que ça décomplexait un peu, je crois qu'on est assez décomplexé de savoir que les femmes, les premières témoins de la résurrection, celles sur qui Dieu compte pour transmettre le moment le plus important de sa mission sur terre, elles sont dans le doute, perdues, éparpillées et perplexes. C'est dire l'ampleur de la crise. Elle nous déculpabilise effectivement, cette description. Oui, nous avons le droit, et je nous donne le droit, toujours à la suite des femmes, d'être dans des moments de doute, d'avoir le sentiment d'être un poil perdu, de se sentir éparpillés, perplexes par rapport à la résurrection. Et pourtant, comme avec la stupeur, les femmes ne s'arrêtent pas là. Elles bénéficient de cette phrase extraordinaire, là aussi, de ces deux hommes qui finissent par s'avancer vers elles et leur adressent cette simple question. Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Là où nous en sommes, quel que soit notre état par rapport à cette crise de la résurrection, résonne pour nous tous cette question. Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Chercher et trouver, chercher et ne pas trouver, chercher quelque chose et se voir contraint d'aller ailleurs, chercher à la bonne place. Nous sommes toutes et tous face à ces questions dans notre vie. On cherche peut-être un sens, on cherche peut-être des réponses. Et je crois que l'exemple de ces femmes nous rejoignent là où nous en sommes, dans nos questions. Ils nous rejoignent là où nous en sommes aussi par rapport à notre foi chrétienne, dont le centre est la résurrection du Seigneur Jésus. Alors, à leur suite, apprenons aussi ce qu'elles ont appris à faire, ce qu'elles vont transmettre aux autres disciples tout de suite après leur rencontre. Et par là, par leur mise en mouvement, où elles partent annoncer aux autres disciples la réalité de la résurrection, elles vont être cette étincelle qui va changer le cours de l'histoire. Elles n'ont pas encore tout compris, elles n'ont pas encore tout intégré. Par contre, elles se mettent en mouvement avec ce qu'elles ont reçu de la part de ces deux hommes. Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Alors dans notre vie, dans notre foi, dans notre vie de tous les jours, cherchons au bon endroit. Cherchons la vie plutôt que la mort. Le Deutéronome nous dit « Choisis la vie ». Et je crois que c'est le choix que nous sommes amenés à faire avec la résurrection. Cherchons et chérissons ce qui donne la vie plutôt que la mort. Cherchons et chérissons ce qui donne la vie plutôt que la mort. Et ça peut prendre des dimensions très concrètes, donc très exigeantes, de chérir la vie plutôt que la mort. On peut par exemple privilégier le pardon plutôt que la rancœur. On peut privilégier la joie plutôt que la négativité. On peut privilégier l'accueil plutôt que le rejet. L'accueil plutôt que l'indifférence. On pourra allonger la liste longtemps, je ne vais pas nous mettre trop de poids sur les épaules, mais en deux mots, la vie plutôt que la mort. Et chaque fois que nous posons des actes, que nous vivons de cette manière-là, j'ai envie de dire que nous allons au-delà d'une simple morale de ce qui est bien ou de ce qui n'est pas bien. C'est-à-dire ce qui est bien ou ce qui est mal. Je crois que plus fondamentalement, nous nous laissons guider par la puissance de la résurrection, qui célèbre la vie qui a vaincu la mort. En privilégiant l'accueil plutôt que le rejet, l'accueil plutôt que l'indifférence, le pardon plutôt que la rancœur, on n'est pas en train de nous dire de vivre une nouvelle loi, une nouvelle forme de moralité. On est simplement en train de mettre en sommaire de nos vies, pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? On chérit, on célèbre et on accueille la vie qui a vaincu la mort. Alors oui, je nous laisse cette question. Je nous laisse aussi ce sens à la vie avec toutes ces applications pratiques. Alors, à la suite des femmes, je nous invite à continuer le mouvement, à continuer cette mise en marche, même dans un temps de confinement où les sociétés sont un peu paralysées, à cette mise en mouvement pour porter cette bonne nouvelle de la résurrection, pour porter cette réalité que la vie dépasse la mort, que la vie d'offerte par Jésus-Christ, a vaincu la mort. Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Alors, chers frères et sœurs, chers tous qui nous écoutez, c'est avec joie que l'on peut dire, oui, je choisis de chercher, Je choisis de chérir la vie qui nous est offerte par Jésus-Christ. Amen.